et c'est marquant. Jacques Lavergne, bonjour. Qu'est-ce qu'un essai ? Eh bien, c'est une œuvre de réflexion portant sur les sujets les plus divers, parfois polémiques ou partisans, mais pas obligatoirement. C'est un texte littéraire qui aborde des domaines variés, historiques, scientifiques, philosophiques, économiques, politiques, etc. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un élément essentiel à la vie sur Terre, hein, d'une question existentielle pour tout ce qui vit sur cette planète, dont l'Homo sapiens, il s'agit de l'eau. Et nous allons le faire à travers l'essai intitulé « L'eau, une affaire d'État », sous-titré « Enquête sur le renoncement écologique », c'est de Sylvain Baronne. C'est publié par Raison d'agir, 139 pages, donc vous voyez, un essai court mais percutant, 13 euros, 2024, parution, mais qui est toujours et qui restera certainement pendant assez longtemps, d'une actualité brûlante. Alors l'auteur, Sylvie Baronne, est chercheur en sciences politiques à l'INRAE, bien connu, hein. Il est au laboratoire qui s'appelle G comme Gaspard O, comme l'eau bien sûr, qui se trouve à Montpellier. Ses recherches portent sur l'action publique en matière d'environnement, notamment à travers la gestion de l'eau, l'adaptation aux risques littoraux, la politisation des questions climatiques et le traitement judiciaire des atteintes à la nature en France et aux États-Unis. Donc vous voyez qu'il a là une large palette de thèmes de recherche. Alors, publié, je l'ai dit, par Raison d'agir, une maison parisienne assez peu connue d'ailleurs, qui dit offrir des instruments de compréhension, donc de liberté que produit la recherche internationale sous toutes ses formes, littéraires, scientifiques, rassemblées sans autre considération que la qualité des œuvres, leur nouveauté, leur rigueur, leur originalité, des travaux français et étrangers sur les problèmes les plus difficiles et les plus brûlants de la pensée et de l'action. C'est donc le but de cette collection, c'est au moins le but qu'elle affiche, une collection qui veut réunir les exigences d'un rigoureux classicisme et les audaces de l'avant-garde, la formule et de son fondateur qui n'est autre que Pierre Bourdieu, donc maison d'édition indépendante, créée en 1996 hein, par ce même Bourdieu, le sociologue, régie par un système d'association et elle définit sa ligne éditoriale comme présentant l'état de la recherche sur des problèmes politiques et sociaux d'actualité. Donc une structure qui est issue d'un rapprochement d'une revue qui s'appelait Libère et de Raison d'agir qui était une association regroupant militants et chercheurs. Elle s'inscrit dans le renouveau de l'édition militante des années 90. Et elle a provoqué la montée en flèche de collections militantes. Elle a inspiré d'autres éditeurs, vous le savez, on en parle assez souvent ici, on ne parle même que de ça d'ailleurs. Et il y a une cellule éditoriale hein, qui est considérée comme, par Pierre Bourdieu, le fondateur, comme le plus efficace des instruments de débat intellectuel. Pierre Bourdieu a supervisé tout le développement de cette maison, mise au point de la maquette. Il voulait que ce soit à la fois très chic et très radical. Et il disait qu'il ne fallait pas que ça ait l'air d'un bulletin syndical. En même temps, il fallait que cela soit sobre, modeste, que l'on puisse le mettre dans la poche et que ça ne coûte pas cher. Eh bien, écoutez, le pari est tout à fait réussi. On va continuer maintenant sur le contenu de ce livre. Alors parlons de la quatrième de couverture, je vous la lis. Au cours des 30 dernières années, la gestion de l'eau a reçu des moyens importants pour préserver ou restaurer les cours d'eau, les zones humides et la biodiversité des milieux aquatiques. Ce processus d'écologisation fait désormais face à des régressions délibérées actées au sommet de l'État. Cet abandon volontaire intervient alors même que les connaissances scientifiques et les expériences sociales pratiques rappellent à quel point le monde est de plus en plus confronté aux effets du changement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Comment comprendre un tel renoncement écologique ? telle est la quatrième de couverture. Et la table des matières, je vais vous donner voilà, dans la feuillette, elle est bien sûr au fond du livre. Alors, outre la traditionnelle introduction, il y a trois grandes parties. Protéger les milieux tout en perpétuant les usages de l'eau, point d'interrogation. Des résistances continues à l'écologisation. Entre arbitrage défavorable et affaiblissement global des capacités d'agir. Un État répressif à deux visages. Et bien sûr, le livre se termine par une conclusion. Alors on va lire quelques passages. J'ai eu beaucoup de mal à les choisir parce que je vous l'ai dit, c'est un livre extrêmement intéressant, dense. Alors j'ai l'habitude, moi, de prendre beaucoup de notes sur mes livres maintenant, les carnets c'est fini, de souligner, de surligner. Et j'ai eu du mal à effectuer un choix, comme je vous le disais. On va prendre la première lecture dans l'introduction, qui s'appelle « Le paradoxe du renoncement écologique ». Voilà le texte de Sylvain Baronne. L'environnement perd fréquemment ses arbitrages face aux autres secteurs. Pour le formuler autrement, les politiques environnementales semblent au moins gouvernées autant par l'extérieur, par le secteur agricole, par celui de l'énergie ou par le ministère de l'économie et des finances que par le ministère de la transition écologique. Toutefois, même lorsque l'État intervient de manière proactive sur les sujets écologiques, il le fait le plus souvent libéral réformiste, en ne remettant pas en cause les objectifs de développement économique, ou en conservateur, en veillant de ne pas trop perturber l'ordre social et politique établi. Quelques lignes plus loin, les réactions du gouvernement aux mobilisations agricoles se soldent par d'importantes régressions écologiques. Je passe quelques lignes et je poursuis. Une forme de désécologisation, c'est compliqué à dire, semble même être à l'œuvre aujourd'hui dans un contexte où les prises de parole publiques décomplexées contre l'écologie se multiplient dans des sphères sociales et politiques de plus en plus larges. Nous voici en fin de compte placés face à un profond paradoxe. Le renoncement écologique n'a jamais été aussi largement assumé depuis une vingtaine d'années, alors même que les connaissances scientifiques et les expériences sociales pratiques rappelle chaque jour à quel point le monde est et sera de plus en plus confronté aux effets du changement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Fin de citation. Et je vous propose d'aller plus avant dans le livre et de nous arrêter sur une autre citation que j'ai prise, page 43, dans un chapitre intitulé « Menaces sur la qualité de l'eau » et relance de l'irrigation. Voici. Le Monde publie avec l'aide d'hydrogéologues un état des lieux de la contamination des eaux souterraines. Le constat est inquiétant. Sur les millions de données agrégées pour la période 2016-2023, plus d'un quart, soit 28%, ont enregistré au moins un dépassement de valeur seuil lié à des contaminants surveillés par les autorités. Les pollutions de l'eau sont d'origine extrêmement variée, mauvais raccordement de certaines zones urbanisées au réseau d'assainissement, rejet dans le milieu dû à la saturation des eaux dites unitaires, qui sont les eaux usées et les eaux pluviales, en cas de forte pluie, pollutions industrielles diverses, que l'on pense à la destruction écologique de l'Entendeberg par l'industrie lourde, aux concentrations de plomb, d'arsenic ou de cadmium laissées dans les sols et les rivières de Cévennes par d'anciennes mines, ou la contamination de l'eau par des substances per- et polyfluoroalkylées, ce qu'on appelle les PFAS, utilisées dans la fabrication de très nombreux objets, emballages, semi-conducteurs, poêles anti-adhésives, etc., et qualifiées de polluants éternels. L'usage agricole d'intrants de synthèse hypothèque en bien des endroits la qualité de l'eau et des milieux associés. Les pollutions diverses d'origines agricoles sont de plus en plus complexes à gérer. beaucoup plus que les pollutions localisées ou ponctuelles comme celles issues des stations d'épuration ou d'installations industrielles. De manière quelque peu paradoxale, elles contribuent à la dégradation de la qualité des petits cours d'eau en zone rurale, alors que la politique de réduction des points noirs sur les grands fleuves a permis des améliorations notables, notamment en aval des grandes villes. Voilà pour quelques citations. Et nous allons pencher à présent sur la conclusion de l'essai. Alors la conclusion de l'essai qui se trouve à la page 109. Et elle s'intitule, cette conclusion, ce que les politiques de l'eau et de l'environnement disent de notre fonctionnement démocratique. Je vous cite la première phrase. Au terme de cette réflexion, on perçoit à quel point la gestion de l'eau constitue un terrain de lutte, un espace d'expression, de reproduction et d'actualisation de rapports de force et de domination. Et l'auteur de nous expliquer que les syndicats agricoles productivistes, qui sont, nous le savons tous, reconnus comme interlocuteurs principaux du ministre de l'Agriculture, qui sont aussi très bien soutenus au Sénat, eh bien, ils remportent systématiquement les arbitrages sur la question de l'eau. Et l'auteur nous dit que les compromissions répétées au sujet des pesticides constituent un autre bon indicateur des rapports de force entre l'agriculture productiviste et l'écologie. Nous précise également, parce qu'il a certainement une grande pratique de la politique en la matière, il nous dit que la logique des mandats politiques incite les élus à satisfaire des intérêts de court ou moyen terme plutôt que des intérêts à long terme, chose que nous constatons en permanence. Et il termine en disant, il termine longuement, hein, je fais bien sûr un résumé très bref. En matière d'eau, il nous dit que le bilan se caractérise en réalité par une grande continuation avec les décennies précédentes et en particulier dans la manière de préserver les grands compromis sociopolitiques en place. Et il nous fait état d'un certain nombre de remises en cause de plus en plus fréquentes, remises en cause à la fois de la science, des procédures de concertation et de l'état de droit. Et il en conclut que toutes ces dynamiques conjuguées le montrent bien. Le renoncement écologique est aussi un renoncement démocratique. Alors l'intérêt de ce livre et ce qu'il peut nous apprendre, il va nous apprendre beaucoup de choses, surtout sur le fonctionnement politique-administratif de l'eau en France. C'est pas neutre, il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup d'intervenants. C'est un maquis, moi j'ai découvert une complexité que j'étais loin d'imaginer. Et il faut se souvenir, fin mars 2023, c'est pas très vieux, quelques mois après cette sécheresse historique de 2022, vous l'avez certainement encore présent à l'esprit, le président de la République, Emmanuel Macron, annonçait un plan eau, dont les mesures traduisaient une timide prise de conscience des effets du changement climatique. Vous savez, c'est l'homme qui nous a dit mon mandat sera écologique ou ne sera pas. Bon, ben, force est de constater que sur ce plan-là, il n'a pas été du tout. Et alors, au cours des 30 dernières années, la gestion de l'eau avait pourtant reçu des moyens importants pour préserver ou restaurer les cours d'eau, restaurer les zones humides, la biodiversité des milieux aquatiques. Et ce processus d'écologisation fait désormais face, hein, tout l'indique si vous suivez un peu l'actualité, à des régressions délibérées et qui sont actées au sommet de l'État. C'est ce renoncement écologique qui est pointé dans ce livre et qui est effectivement extrêmement inquiétant. Alors c'est un abandon volontaire qui dépasse largement le seul domaine de l'eau et qui nous place devant un profond paradoxe, c'est un renoncement qui intervient alors même que les connaissances scientifiques et les expériences sociales pratiques rappelle chaque jour à quel point le monde est de plus en plus confronté aux effets du changement climatique et aussi, ne jamais l'oublier, de l'effondrement de la biodiversité. Alors nous avons eu, et là on revient en plein dans l'actualité, mercredi 8 avril, c'était donc il y a deux jours, le Conseil des ministres qui devait examiner un nouveau texte à, ouvrez les guillemets, à apporter des réponses concrètes, rapides, utiles aux problématiques du monde agricole, fermez les guillemets. Donc, après la loi d'orientation agricole et la loi du plomb adoptée l'an dernier, ben voilà un projet de loi d'urgence qui fait finalement écho et réponse à la colère paysanne. Et on ressort toujours les mêmes recettes, simplification, dérégulation, avec une volonté récurrente, sécuriser l'accès à l'eau, en clair, ouvrir les vannes de l'irrigation. Et pour ce faire, la nouvelle législation entend supprimer l'obligation des réunions publiques pour les projets de stockage, autoriser les préfets à maintenir une autorisation de prélèvement retoquée par la justice, permettre des dérogations au plan de gestion des eaux, qu'on appelle le SAGE, S-A-G-E, lisez le livre, vous verrez, il nous explique, l'auteur nous explique ce que c'est, et ces dérogations devraient permettre de construire des retenues d'eau sur le plan technique pose quand même question. Donc autant de mesures qui viennent vider de sa substance la démocratie de l'eau, c'est ce qu'en conclut Sylvain Baronne. Il faut donc lire ce livre, c'est un sujet essentiel pour nous, mais c'est un sujet très complexe que Sylvain Baronne, en bon scientifique, a su de façon très pédagogique nous présenter et nous plonger au cœur de cette problématique, encore une fois, essentielle pour l'Homo sapiens, c'est essentiel pour nous, Français. C'était Essai marquant par Jacques Lavergne avec à la réalisation Sacha Gauchy. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. Bonne lecture à toutes et à tous.